Ubi est Quinatus Rex? Où est le roi qui vient de naître? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Où est le roi qui vient de naître? Nous fêtions il y a quelques jours la naissance de notre Seigneur dans l'humilité, l'indigence et la pauvreté. Naissance à laquelle se rendirent quelques bergers. Mais aujourd'hui, si nous retournons à Bethléem, quel contraste! On ne voit corps que pourpre, que parfum dans son étable. Au lieu des bergers, ce sont des rois qui se prosternent devant lui et qui mettent leur couronne à ses pieds. Car le mystère que l'Église célèbre aujourd'hui est le mystère de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si sa naissance a été le mystère de sa pauvreté, aujourd'hui il est roi. Il est même le roi des rois. Or, si nous examinons ce qu'est la royauté, on peut dire qu'elle est une qualité composée de plusieurs autres qui peuvent se réduire à trois principales. Premièrement, l'autorité, qui fait qu'on lui obéit. Deuxièmement, la puissance, qui la fait redouter. Et enfin, la majesté, qui lui attire le respect et la vénération des hommes. L'autorité est comme la base et le fondement du trône. La puissance lui sert d'appui, et la majesté en est l'ornement. Or, de tous les souverains qui ont jamais régné sur cette terre, il ne fait aucun doute que Jésus-Christ a possédé plus parfaitement qu'aucun d'entre eux ses prérogatives royales. Son Père lui a en effet donné sur toute créature l'autorité infinie qu'il a lui-même sur elle. Il lui a communiqué sa toute-puissance en lui faisant part de sa nature. Et la divinité qui habitait en lui corporellement, comme parle Saint-Pierre, se produisait sur son visage par des traits si augustes et si parlants qu'il n'avait qu'à se faire voir pour se faire respecter. Cependant, son règne n'a pas été de ce monde. Sa royauté s'exerce bien sur ce monde, mais elle ne tire pas son pouvoir de ce monde. Il n'a voulu régner sur la terre qu'en méprisant en même temps toutes les grandeurs terrestres. Aujourd'hui, en cette fête de l'Épiphanie, et seulement aujourd'hui, notre Seigneur a montré dans tout leur éclat tous les rayons de sa gloire, pour donner une preuve incontestable qu'il est le roi de tous les hommes. Il a fait connaître qu'il était même le roi des rois de tous les puissants de la terre. Aussi, revenons sur ces qualités de la royauté, autorité, puissance, majesté. En premier lieu, dans la personne des mages, Jésus rend les rois dociles à ses ordres. Il a autorité sur eux. Selon l'opinion commune, appuyée de l'autorité de saint Augustin et de saint Léon, les mages arrivèrent à Bethléem 13 jours après la naissance du Sauveur, faisant preuve d'une extrême diligence. Aussi disent-ils eux-mêmes qu'ils n'ont pas différé un moment leur départ. Ecce vidimus stella meius in oriente et venimus. Nous n'avons pas plutôt aperçu l'étoile que nous sommes mis en route. Nous avons vu et nous avons obéi. Il n'y a pas un seul instant de délai. À peine l'ordre était donné pour partir que nous l'avons exécuté. Vidimus et venimus. En effet, l'étoile elle-même ne devança que de bien peu de temps leur marche. Ecce stella quam viderant in oriente antecedebat eos. Elle hâtait ou retardait son mouvement au gré des mages qu'elle conduisait, nous dit saint Augustin. Mais si elle avait égard à leur faiblesse, elle n'aurait pas cependant favorisé leur négligence. Leur obéissance ne peut avoir donc été plus prompte, puisqu'elle a suivi de si près le mouvement de cette étoile, qui était elle-même mue par notre Seigneur qui désiraient recevoir leur hommage. Surtout que cet astre, après s'être fait voir hommage dans leur pays, leur fut caché pendant tout le chemin, jusqu'à ce qu'ils fussent assez près de Bethléem. C'est la pensée de saint Jean Chrysostome. Ils affirmèrent d'ailleurs à Hérode, « Nous avons vu son étoile en Orient. » Et un peu après, l'évangéliste dit lui-même, « Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précéder. » Ils revirent donc tout à coup l'étoile qui s'était montrée à eux en Orient, ce qui prouve qu'elle avait disparu depuis qu'ils en étaient sortis. C'est pour cette raison que, la revoyant en quittant Jérusalem, ils conçurent une si grande joie. Gavisisum gaudio magno valde. Ils furent transportés d'une très grande joie. Ce qui ne serait pas arrivé s'ils n'avaient pas connu une très grande surprise, comme s'ils ne s'attendissent plus à la revoir. Dieu fit ainsi pour mettre leur obéissance à une plus rude épreuve. S'ils n'avaient jamais perdu de vue cette lumière, si elle avait toujours marché devant eux, elle aurait dissipé tous leurs doutes. Mais le nouveau roi exigeait leur soumission malgré l'obscurité et les difficultés. En leur retirant ce secours extérieur, il voulait donner lieu au combat qui s'éleva sans doute dans leur esprit entre le désir d'obéir et la crainte de s'être trompé, entre les motifs et les difficultés de l'obéissance. Saint Augustin nous dit que cette étoile était comme le langage du ciel, qui annonçait par son éclat extraordinaire le miracle d'un enfant né d'une vierge. Mais c'était après tout un langage muet. Et quelque brillante que fût cette étoile, elle était un signe assez obscur de la naissance du Sauveur, et plus obscur encore de la volonté de Dieu qui les appelait à Bethléem. Dieu avait envoyé un ange pour appeler les bergers au berceau du Sauveur, car il s'est rendu semblable aux pauvres. Pour les rois, dont il est venu fouler aux pieds l'orgueil, il lui plaît d'agir en roi avec eux. Et c'est assez qu'une nouvelle étoile leur indique le nouveau Seigneur qui leur est né. La docilité des mages est donc vraiment admirable. Car si notre Seigneur se comporte en maître à leur égard, ils agissent de leur côté envers lui comme des sujets très zélés. Beaucoup d'autres gentils avaient vu la même étoile, mais ils furent les seuls qui obéirent. Notre Seigneur est aussi notre roi, et il nous demande la même docilité. De nombreuses étoiles nous paraissent tous les jours un commandement de Dieu, un précepte de notre mère l'Église, une inspiration qui nous invite à craindre ou à aimer Dieu ou à faire sa volonté. Ne méprisons pas ces pensées qui viennent de Dieu, ne les étouffons pas pour nous livrer à nos propres caprices qui nous captivent, au torrent du monde qui nous entraîne, aux fougues des passions qui nous aveuglent. Si Jésus demande la docilité à sa volonté, il fait aussi, deuxièmement, sentir les effets de sa puissance, deuxième qualité de la royauté. N'ayant plus l'étoile pour les guider, les mages se rendirent à Jérusalem pour interroger Hérode sur le lieu de la naissance du nouveau roi. Il y a là de quoi nous surprendre. Car il ne pouvait ignorer le caractère de ce tyran. Il avait usurpé le trône de Judée, s'était couvert les mains de sang en faisant exécuter tous ceux qui avaient un droit légitime sur ce trône. Le père, la mère et le cousin de son épouse. Il fit même mettre à mort ses deux enfants, de peur qu'ils ne lui ravissent la royauté, en vertu des droits de leur mère. et finit par faire périr celle-ci, bien que ce fût la seule des 10 épouses qu'il aima jamais. Voilà donc le tyran à qui nos mages viennent demander des nouvelles du roi légitime de la Judée. Et c'est dans la ville capitale d'Hérode, dans son propre palais, qu'ils osent annoncer la naissance de ce nouveau roi. Cette intrépidité est une preuve manifeste du pouvoir, de la puissance de Jésus, qui leur a donné un courage indomptable, ainsi qu'une très grande sécurité, jusque dans la cour d'un si méchant prince. À l'inverse, Hérode, malgré ses gardes, malgré ses richesses immenses, malgré les armes et l'appui de ceux qui le soutiennent, ne peut être rassuré. Il est en proie à une frayeur extrême. Par la suite, apprenant que les mages ne sont point revenus, cette même crainte le poussera à de nouvelles folies. Il aura beau connaître l'âge du nouveau roi, la peur, qui lorsqu'elle est à son comble ne raisonne plus, le poussera à ordonner la mort des enfants de 2 ans et moins, et ceci dans un large périmètre autour de Bethléem. Il ne fut même pas calmé par un carnage si horrible, et il sacrifia lui-même un de ses fils. Saint Augustin fait à ce sujet cette juste réflexion. Si Jésus au berceau fait déjà trembler les plus grands monarques, combien paraîtra-t-il terrible à tout le monde lorsqu'il sera sur le trône ? Nous devons nous aussi ne pas nous laisser agiter par de vaines craintes. Notre Seigneur nous a dit « Je vais vous apprendre qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué le corps, a le pouvoir de jeter l'âme dans la géhenne. Oui, je vous le dis, craignez celui-là et non un autre. » Notre grande et unique crainte doit être celle d'offenser Dieu. Le monde dans lequel nous vivons devient de plus en plus fou à mesure qu'il s'éloigne de Dieu. Peut-être des persécutions viendront-elles contre ceux qui veulent rester fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, notre Seigneur nous l'a dit, « Je vais vous apprendre qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué le corps, a le pouvoir de jeter l'âme dans la géhenne. » Et ce qui doit surtout nous pousser à craindre Dieu est qu'il est la bonté même et que nous commettrions une véritable trahison et une horrible vilenie à rendre le mal à ce Dieu si bon qui ne nous fait que du bien, qui ne nous a jamais fait que du bien. Cette crainte d'ailleurs, loin de troubler, au contraire, rassure et calme l'esprit. Elle chasse toute autre crainte, rend intrépide dans les périls, fait mépriser la mort et même la désirer. Troisième point. Après avoir rendu les rois dociles à sa volonté, en se faisant craindre d'eux, il se fait respecter d'eux par sa majesté. Lorsque le Verbe éternel s'est uni à une nature humaine, Dieu a répandu dans cette âme des qualités naturelles et surnaturelles proportionnées en quelque manière à la divinité à laquelle elle s'était unie. Notre Seigneur, dans son humanité, possédait une bonté, une sagesse, une sainteté, une science toute divine. Son corps même se ressentit de la divinité qui y habitait. On peut dire en quelque sens que sa beauté, que sa majesté était divine. Saint Jérôme nous dit qu'il fallait bien qu'il y eût quelque chose de divin sur le visage et dans les yeux du Sauveur. Sans cela, les apôtres ne se seraient pas hâtés de le suivre à la première invitation. De même, quand on le chercha pour le livrer à Pilate, l'Évangile dit que ce fut durant la nuit et à la lumière des flambeaux. Cela n'empêcha pas les soldats d'être éblouis par l'éclat de son visage. Le mystère de ce jour nous donne encore plus une idée tangible de sa beauté et de sa majesté. Car les rois, dès qu'ils le virent dans les bras de Marie, furent si frappés qu'ils se prosternèrent devant sa crèche et l'adorèrent. En un sens, le zèle des mages nous donne une leçon plus utile que celui des bergers. Ce sont des rois, et ils sont venus de loin pour s'humilier devant le fils d'un artisan. Ils étaient donc persuadés que cet enfant était bien davantage que ce qu'il paraissait être par sa naissance temporelle. Ils trouvèrent ce roi dans l'indigence, et ils n'en furent point surpris. Mais ils furent si frappés de sa beauté et de la majesté qui brillait sur son front qu'ils tombèrent à ses pieds et se prosternèrent pour l'adorer. Les mages furent vraiment de ces adorateurs en esprit et en vérité que le Père cherchait. Car si Dieu le Père s'était contenté de cérémonies extérieures, s'il avait voulu n'être qu'encensé, que son étable fut inondé du sang des victimes, comme celle que les Juifs offraient habituellement dans le temple, il n'aurait pas fait venir de si loin ses princes. Les Juifs lui auraient suffi. Ils étaient la nation la plus propre pour lui rendre cette espèce de culte. Mais depuis que le Seigneur s'est rendu visible, il demande un culte invisible, des sacrifices spirituels dont le peuple juif ignorer l'usage. Prenons garde, nous aussi, de faire consister notre religion dans des actions purement extérieures et sensibles. Assister à la messe, jeûner, communier, réciter des prières. Ces actes extérieurs honorent Dieu, à n'en point douter. Mais Dieu demande plus que cela. Il demande des âmes qui lui sacrifient leurs désirs, leurs inclinations, leurs répugnances. Ce sont là les adorateurs que Dieu cherche et il en trouve peu. C'est pourtant la seule voie par laquelle on marche avec sûreté, où l'on fait en peu de temps les plus grands progrès. Elle est rude, elle est épineuse, c'est vrai, mais elle conduit directement à Jésus. Que l'étoile de la grâce nous conduise donc, comme les mages, aux pieds de l'enfant Jésus, aux pieds de notre Sauveur, pour que nous puissions, nous aussi, l'adorer en esprit et en vérité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.